Le journal de George Fox 1673-1677 en Hollande et retour page 2. Cependant eut lieu l'assemblée annuelle des amis, à laquelle j'assistai, et les réunions furent extrêmement glorieuses, au-delà de toute expression. Béni soit le Seigneur. Après l'assemblée annuelle, je partis pour Worcester, les sessions approchant, qui se tinrent au cinquième mois. Lorsque je fus appelé à la barre, et que l'acte d'accusation fut lu, quelques scrupules s'élevant parmi les jurés à son sujet, le juge du tribunal, le juge Street, fit lire les serments et me les présenta de nouveau. Je lui dis : « Je viens maintenant pour faire juger la contestation, le déni que les accusations sont vraies de mon acte d'accusation, et le fait que vous me proposiez à nouveau ces serments est un nouveau piège. » Je lui demandai de répondre à une question ou deux, et je lui demandai si les serments devaient être proposés au sujet du roi ou au sujet de princes étrangers. Et il dit : « Au sujet de ce royaume. » Alors dis-je, vous ne m'avez pas nommé comme sujet dans l'acte d'accusation, et vous ne m'avez donc pas fait entrer dans le champ de la loi. Le juge s'écria, lisez-lui le serment. Je dis, j'exige justice. De nouveau je lui demandai si les sessions ne devaient pas être tenues pour le roi et pour le corps du comté, il dit, oui. Alors dis-je, vous avez omis le roi dans l'acte d'accusation. Comment pouvez-vous alors poursuivre sur cet acte un procès entre le roi et moi, puisque le roi en est omis? Il dit, le roi y était auparavant. Mais je lui dis, le nom du roi ayant été omis, il y avait là une grande erreur dans l'acte d'accusation et suffisante, comme on m'en a informé, pour l'annuler. En outre, je lui dis que j'avais été incarcéré sous le nom de George Fox, de Londres, mais qu'à présent j'étais inculpé sous le nom de George Fox, de Tredington, dans le comté de Worcester. Je souhaitais que le jury considère comment il pouvait me déclarer coupable sur cet acte d'accusation, puisque je n'étais pas de l'endroit que l'acte mentionnait. Le juge ne nia pas qu'il y eut des erreurs dans l'acte d'accusation, mais il dit, « Vous pouvez chercher votre recours au lieu approprié. » Je répondis, « Vous savez que nous sommes un peuple qui souffre toutes choses et supporte toutes choses, et c'est pourquoi vous abusez de nous, parce que nous ne pouvons pas nous venger, mais nous laissons notre cause au Seigneur. » Le juge dit, « Le serment vous a été proposé plusieurs fois, et nous devons obtenir de vous quelques satisfactions au sujet du serment. » Je leur offris la même déclaration à la place du serment que j'avais offerte au juge ci-dessus, mais elle ne fut pas acceptée. Alors je demandai si l'acte d'accusation était annulé, puisqu'il me proposait de nouveau le serment. Au lieu de me répondre, le juge dit au jury qu'il pouvait se retirer. Certains jurés n'étaient pas satisfaits, alors le juge leur dit qu'ils avaient entendu un homme jurer que le serment m'avait été proposé à la dernière session, puis il leur indiqua ce qu'ils devaient faire. Je lui dis qu'il devait laisser le jury à sa propre conscience. Cependant, le jury, instruit par lui, sortit et revint peu après, et me déclara coupable. Je leur demandai comment ils pouvaient se satisfaire de me déclarer coupable sur cet acte d'accusation, qui était si faux et contenait tant d'erreurs. Ils purent dire peu de choses, pourtant l'un d'eux, qui semblait être le pire, aurait voulu me prendre la main, mais je l'écartai disant, « Quoi maintenant, Judas, m'as-tu trahi, et viens-tu maintenant avec un baiser ?» Ainsi je lui dis, et à tous de se repentir. Alors le juge commença à me dire combien le tribunal avait été favorable envers moi. Je lui demandai, comment il pouvait dire cela? A-t-on jamais plus maltraité un homme que je ne l'ai été dans cette affaire? Moi qui ai été arrêté sur ma route alors que je voyageais pour mes propres affaires légitimes, et emprisonné sans cause, et maintenant on ne m'a proposé les serments que comme un piège. Je le priai de me répondre en la présence du Seigneur, devant qui nous sommes tous, si ce serment ne m'avait pas été présenté par envie. Il ne voulut pas répondre à cela, mais il dit, « Je voudrais que vous ne soyez jamais venu ici nous troubler, nous et le pays. » Je répondis, « Je ne suis pas venu ici de moi-même, mais j'ai été amené après avoir été arrêté en chemin. Je ne les ai pas troublés, mais ils se sont attirés eux-mêmes des troubles. » Alors le juge me dit, « Quelle triste déclaration il avait à me faire. » Je lui demandai, si ce qu'il allait dire était une sentence ou une information, car je lui dis que j'avais beaucoup de choses à dire et davantage d'erreurs à signaler dans l'acte d'accusation, outre celle que j'avais déjà mentionnée, pour l'empêcher de prononcer une sentence contre moi sur cet acte. Il dit qu'il allait me montrer le danger d'un prémunir, qui était la perte de la liberté et de tous mes biens et effets, et de subir un emprisonnement à vie. Mais il dit qu'il ne donnait pas cela comme la sentence du tribunal à mon encontre, mais comme un avertissement. Puis il dit au geôlier de m'emmener. Je m'attendais à être rappelé pour entendre la sentence, mais lorsque je fus parti, le greffier de la paix, qui s'appelait Tweetay, lui demanda, comme on me l'a rapporté, si ce qu'il m'avait dit devait tenir lieu de sentence, et lui, après avoir consulté quelques juges de paix, lui dit, oui, c'était la sentence, et elle devait être maintenue. Cela fut fait derrière mon dos, afin de se préserver de la honte aux yeux du pays. Beaucoup des juges de paix et la majorité des gens étaient modérés et civilisés. Et John Ashley, avocat, fut très amical, tant auparavant au tribunal que maintenant, parlant en ma faveur et plaidant pour moi les erreurs de l'acte d'accusation, mais le juge Street, le juge du tribunal, passa outre tout cela. Ce juge Street dit à quelques amis le matin avant mon procès que s'il avait siégé sur le banc à la première session, il ne m'aurait pas proposé le serment, mais que si j'avais été convaincu d'avoir assisté à un conventicule, il aurait procédé contre moi selon cette loi et qu'il regrettait que je sois jamais venu devant lui. Pourtant, il me proposa malicieusement le serment de nouveau au tribunal, alors que je devais faire juger ma contestation sur l'acte d'accusation. Mais le Seigneur plaida ma cause et rencontra lui et le juge Simpson, qui le premier m'avait pris au piège avec le serment à la première session, car le fils de Simpson fut mis en accusation peu après à cette même barre pour meurtre. Et Street, qui, lorsqu'il descendait de Londres, après que les juges m'eurent renvoyé de la cour du banc du roi Oust, dit « Maintenant qu'on me l'a renvoyé, il restera en prison et y pourrira. » Sa fille, qu'il chérissait tant qu'on l'appelait son idole, rapportée morte de Londres dans un corbillard jusqu'à la même auberge où il avait prononcé ses paroles, et elle fut conduite à Oust pour y être enterrée quelques jours après. Les gens remarquèrent la main de Dieu, combien soudainement elle s'était abattue sur lui, mais cela l'endurcit plutôt que de l'adoucir, comme sa conduite par la suite le montra. Après mon retour en prison, plusieurs vinrent me voir, entre autres, le fils du comte de Salisbury, qui était très affectueux, et peiné qu'on m'eût traité avec tant de méchanceté. Il resta environ 2 heures avec moi, et prit une copie des erreurs de l'acte d'accusation, désormais mise par écrit. Les sessions terminées, et moi fixé en prison par un prémunir, ma femme vint du Nord pour être avec moi. Les assises devaient avoir lieu au 6e mois, et l'état de mon affaire ayant été rédigé par écrit, elle et Thomas Lowe le remirent au juge Wilde. On y exposait l'objet de mon voyage, la manière dont j'avais été arrêté et emprisonné, les procédures des différentes sessions contre moi, et les erreurs de l'acte d'accusation par lesquelles j'avais été frappé de prémunir. Quand le juge eut lu cela, il secoua la tête et dit « Nous pourrions essayer la validité ou l'invalidité de ces erreurs, si nous le voulions, à ce qui était tout ce qu'ils purent obtenir de lui. » Pendant que j'étais en prison, il me vint à l'esprit d'exposer notre principe au roi, non pas avec un rapport particulier de mes propres souffrances, mais pour mieux l'informer de notre principe et de nous comme peuple. Au roi, le principe des Quakers est l'esprit du Christ, qui est mort pour tous et ressuscité pour notre justification, par lequel nous savons que nous sommes à lui. Il demeure en nous par son esprit, et par l'esprit du Christ nous sommes conduits hors de l'injustice et de l'impiété. Cela nous amène à renier tout ce complot et manœuvre contre le roi, ou contre quelque homme que ce soit. L'esprit du Christ nous amène à renier toute forme d'impiété, comme le mensonge, le vol, le meurtre, l'adultère, la fornication, toute impureté, la débauche, la malice, la haine, la tromperie, la fraude et toute escroquerie, ainsi que le diable et ses œuvres. L'Esprit du Christ nous amène à rechercher la paix et le bien de tous les hommes, et à vivre paisiblement, et il nous détourne de ces actions mauvaises contre lesquelles l'épée du magistrat protège. Notre désir et notre labeur sont que tous ceux qui se professent chrétiens marchent dans l'Esprit du Christ, afin que, par l'Esprit, ils fassent mourir les œuvres de la chair, et que, par l'épée de l'Esprit, ils abattent le péché et le mal en eux-mêmes. Alors les juges et autres magistrats n'auraient pas tant de travail à punir le péché dans le royaume. Alors non plus les rois ni les princes n'auraient besoin de craindre aucun de leurs sujets, si tous marchaient dans l'esprit du Christ, car les fruits de l'esprit sont l'amour, la justice, la bonté, la tempérance, etc. Si tous ceux qui se professent chrétiens marchaient dans l'esprit du Christ, et que par lui ils mortifient le péché et le mal, ce serait un grand soulagement pour les magistrats et les dirigeants, et cela les délivrerait de bien des soucis, car cela conduirait tous à faire aux autres ce qu'ils voudraient que les autres leur fassent, et ainsi la loi royale de la liberté serait accomplie. Car si tous ceux qu'on appelle chrétiens marchaient dans l'esprit du Christ, afin que, par lui, l'esprit mauvais et ses fruits soient abattus en eux, alors, n'étant pas conduits par l'esprit mauvais, mais par le bon esprit du Christ, les fruits du bon esprit apparaîtraient en tout. Car à mesure que les gens sont conduits par le bon esprit du Christ, il les conduit hors du péché et du mal, contre lesquels l'épée du magistrat protège, et ce serait ainsi un soulagement pour les magistrats. Mais lorsque les gens s'écartent de ce bon esprit du Christ et suivent l'esprit mauvais qui les mène au péché et au mal, cet esprit apporte beaucoup de troubles aux magistrats qui doivent faire exécuter la loi contre les pécheurs et les transgresseurs du bon esprit. Cet esprit, qui conduit les gens loin de toute forme de péché et de mal, est un avec le pouvoir du magistrat et avec la loi juste. Car la loi a été ajoutée à cause de la transgression, et l'esprit qui conduit hors de la transgression doit être un avec cette loi qui est contre les transgresseurs. Ainsi, l'esprit qui conduit hors de la transgression est le bon esprit du Christ, et il est un avec les magistrats dans le pouvoir supérieur, et le reconnaît, lui et eux, mais l'esprit qui conduit dans la transgression est le mauvais esprit, et il est contre la loi, contre les magistrats, et leur donne une grande somme de travail pénible. La manifestation du bon esprit est donnée à chaque homme pour en tirer profit, et nul ne peut profiter des choses de Dieu sinon par l'Esprit de Dieu qui conduit à renier tout péché et tout mal. Il est dit d'Israël, Néhémie 9, « Le Seigneur leur donna son bon esprit pour les instruire, mais ils se rebellèrent contre lui. » Si tous les hommes prenaient garde à cette manifestation de l'Esprit que Dieu a donnée pour les instruire, elle les conduirait à abandonner toute forme de péché et de mal, l'inimitié, la haine, la malice, l'injustice et l'impiété, et à la mortifier. Alors, dans l'Esprit du Christ, ils auraient communion et unité, qui est le lien de la paix. Alors l'amour et la paix, qui sont les fruits du bon esprit, couleraient parmi tous ceux qu'on appelle chrétiens. Nous sommes un peuple qui, par délicatesse de conscience envers le commandement du Christ et de son apôtre, ne peut prêter serment, car il nous est commandé en Matthieu 5 et Jacques 5 de nous en tenir au oui et au non, et de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, de peur que nous ne tombions dans le mal et dans la condamnation. Les paroles du Christ sont celles-ci, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjuras point, mais tu rendras au Seigneur tes serments. » C'étaient des serments vrais et solennels, que ceux qui les faisaient devaient accomplir autrefois, mais ceux-ci, le Christ et son apôtre les ont interdits dans les temps de l'Évangile, aussi bien que les serments faux et vains. Si nous pouvions prêter quelque serment que ce soit, nous pourrions prêter le serment d'allégeance, sachant que le roi Charles a été, par la puissance de Dieu, ramené en Angleterre et établi roi d'Angleterre, par-dessus la tête de nos anciens persécuteurs, et quant à la suprématie du pape, nous la nions entièrement. Et l'apôtre Jacques nous ayant commandé de ne pas jurer, mais de nous en tenir au oui et au non, nous n'osons pas enfreindre leurs commandements. C'est pourquoi beaucoup, le sachant, nous ont tendu les serments comme un piège, afin de faire de nous leur proie. Notre refus de jurer n'est pas par obstination, entêtement ou mépris, mais uniquement par obéissance au commandement du Christ et de son apôtre, et nous acceptons, si nous venons à manquer à notre oui et notre non, de subir la même peine que ceux qui manquent à leur serment. Nous désirons donc que le roi prenne cela en considération, et aussi depuis combien de temps nous souffrons en cette affaire. Ceci vient de quelqu'un qui désire le bien éternel et la prospérité du roi et de tous ses sujets dans le Seigneur Jésus-Christ. George Fox, vers ce temps-là, j'eus une crise de maladie qui me mit très bas et rendit mon corps très faible, et je demeurai ainsi quelque temps, de sorte que certains amis commencèrent à douter de mon rétablissement. Il me semblait être parmi les tombes et les cadavres, pourtant la puissance invisible me soutenait secrètement et me communiquait une force rafraîchissante, même quand j'étais si faible que j'en étais presque sans voix. Une nuit, tandis que j'étais éveillé dans mon lit, dans la gloire du Seigneur qui était sur toute chose, il me fut dit que le Seigneur avait encore beaucoup d'œuvres à me faire faire pour lui, avant de me prendre à lui. On fit des démarches pour obtenir ma libération, au moins pour un temps, jusqu'à ce que je reprenne des forces. Mais la manière d'y parvenir se révéla difficile et laborieuse, car le roi n'était pas disposé à me libérer autrement que par une grâce, ayant été informé qu'il ne pouvait légalement le faire autrement, et je n'étais pas disposé à accepter une grâce qu'il m'aurait volontiers accordée, parce que je ne regardais pas ce moyen comme convenant à l'innocence de ma cause. Edward Pettway, ayant occasion de parler au juge de paix pan que pourra faire, lui demanda de donner un ordre au geôlier, que, compte tenu de ma faiblesse, je puisse avoir la liberté de sortir de la prison dans la ville. Sur quoi le juge de paix pan que écrivit la lettre suivante au geôlier et l'envoya à l'ami pour la lui remettre. « Monsieur Harry, certains amis de George Fox m'ont beaucoup sollicité pour que je vous écrive. Ils m'ont informé qu'il est dans un état de grande faiblesse et fort indisposé. Quelle faveur légitime vous pouvez lui accorder, pour le bénéfice de l'air en vue de sa santé, je vous prie de les lui montrer. Je suppose qu'au prochain terme ils feront une requête au roi. Je suis, monsieur, votre ami affectionné, Renwy Park, Yvesham, le 8 octobre 1674. Après cela, ma femme alla à Londres et parla au roi, lui exposant mon long et injuste emprisonnement, la manière dont j'avais été arrêté, et la conduite des juges de paix contre moi, en me présentant le serment comme un piège par lequel il m'avait frappé de prémunir. Ainsi, puisque j'étais maintenant son prisonnier, il était en son pouvoir et à son bon plaisir de me relâcher, ce qu'elle demanda. Le roi lui parla avec bonté et la renvoya au lord gardien des Sceaux. Elle alla le voir, mais ne put obtenir ce qu'elle désirait, car il dit « Le roi ne peut me relâcher que par une grâce, et je n'étais pas libre de recevoir une grâce, sachant que je n'avais pas fait le mal. » Si j'avais voulu accepter la liberté par une grâce, je n'aurais pas eu besoin de rester si longtemps en prison, car le roi avait été disposé à m'en accorder une bien avant. Il dit à Thomas Moore, qu'il ne fallait pas douter du bien-fondé d'être libéré par une grâce, car bien des hommes aussi innocents qu'un enfant avaient reçu une grâce, et pourtant je ne pus consentir à en accepter une. Car j'aurais préféré rester en prison tous les jours de ma vie plutôt que de sortir par une voie en quelque manière déshonorante pour la vérité. C'est pourquoi je choisis de faire juger la validité de mon acte d'accusation devant les juges. Ayant d'abord obtenu l'avis d'un conseiller juridique à ce sujet, Thomas Corbet de Londres, que Richard David de Welchpool connaissait bien et me recommanda, un habeas corpus fut envoyé à Worcester pour me faire monter une fois de plus à la barre du banc du roi, afin d'examiner les erreurs de mon acte d'accusation. Le sous-shérif et moi partîmes en voyage vers la cour à Londres le 4e du 12e mois. Dans le coche, avec nous voyageait le greffier de la paix et quelques autres. Le greffier avait été mon ennemi tout du long et cherchait maintenant à me prendre au piège dans la discussion, mais je m'en rendis compte et l'évitai donc. Il me demanda, que ferais-je des erreurs de l'acte d'accusation? Je lui dis, qu'elle serait jugée et que toute procédure devait mettre fin à l'acte d'accusation. Il se crêla avec moi parce que j'appelais leur ministre des prêtres. Je lui demandai, si la loi ne les appelait pas ainsi, il me demanda, ce que je pensais de l'Église d'Angleterre. N'y avait-il pas de chrétiens parmi eux? Je dis, ils sont tous ainsi appelés, et il y a parmi eux beaucoup de personnes sensibles. Nous arrivâmes à Londres le 8e du 12e mois, et le 11e je fus conduit devant les quatre juges au banc du roi, où le conseiller Corbet présenta un nouveau moyen. Il dit au juge qu'il ne pouvait emprisonner aucun homme sur un prêt munir. Sur quoi le juge en chef Hall dit, « Monsieur Corbet, vous auriez dû venir plus tôt, au commencement du terme, avec ce moyen. » Il répondit, « Nous ne pouvions obtenir une copie du retour et de l'acte d'accusation. » Le juge répliqua, « Vous auriez dû nous le dire, et nous les aurions contraints à faire le retour plus tôt. » Alors le juge Wilde dit, « Monsieur Corbet, vous parlez en termes généraux, et si c'est comme vous le dites, nous avons commis bien des erreurs à El Old Bailey et dans d'autres tribunaux. » Corbet soutenait fermement qu'en droit il ne pouvait emprisonner sur un prêt munir. Le juge dit, « Il y a convocation dans la loi. » « Oui, dit Corbet, mais une convocation n'est pas un emprisonnement, car une convocation vise à obtenir un procès. » « Eh bien, dit le juge, il nous faut du temps pour consulter nos ouvrages et examiner les lois. » Ainsi, l'audience fut renvoyée au lendemain. Le lendemain, ils choisirent de laisser tomber ce moyen et de commencer par les erreurs de l'acte d'accusation, et lorsqu'elles furent exposées, elles étaient si nombreuses et si grossières, que les juges furent tous d'avis que l'acte d'accusation était annulé et nul, et que je devais recouvrer ma liberté. Ce jour-là, il y eut plusieurs grands personnages, des lords et d'autres, à qui l'on proposa en audience publique les serments d'allégeance et de suprématie juste avant que mon procès ne vienne à l'ordre du jour, et certains de mes adversaires demandèrent au juge que les serments me soient proposés à nouveau, leur disant que j'étais un homme dangereux à laisser en liberté. Mais le juge Hall dit qu'il avait en effet entendu de tels rapports, mais qu'il avait aussi entendu beaucoup plus de bons rapports à mon sujet. Ainsi, lui et les autres juges ordonnèrent que je sois mis en liberté par proclamation. Ainsi, après avoir souffert un emprisonnement d'un an et presque deux mois, pour rien, je fus justement remis en liberté à la suite du jugement des erreurs de mon acte d'accusation, sans recevoir aucune grâce, ni être tenu par aucune obligation ni engagement d'aucune sorte, et la puissance éternelle du Seigneur domina tout pour sa gloire et sa louange. Le conseiller Corbet acquit une grande renommée par cela, beaucoup d'avocats lui dirent qu'il avait mis au jour ce qui n'avait pas été connu auparavant, à savoir qu'on ne devait pas emprisonner sur un prêt munir, et après le procès un juge lui dit « Vous avez obtenu beaucoup d'honneur en plaidant ainsi au tribunal la cause de George Fox. » Pendant le temps de mon emprisonnement à Worcester, malgré ma mauvaise santé, et bien que l'on m'ait si souvent mené hâtivement de ci de là jusqu'à Londres et retour, j'écrivis plusieurs livres pour l'impression, l'un s'intitulait « Un avertissement à l'Angleterre » et un autre « Aux Juifs », prouvant par les prophètes que le Messie est venu, un autre, concernant l'inspiration, la révélation et la prophétie, un autre, contre toute vaine dispute, un autre, pour que tous les évêques et ministres s'éprouvent eux-mêmes par les Écritures. En outre, j'écrivis beaucoup de papiers et d'épîtres aux amis, afin de les encourager et de les fortifier dans leur service pour Dieu, dont certains qui faisaient profession de la vérité, mais avaient cédé à un esprit séducteur et s'étaient écartés de l'unité et de la communion de l'Évangile, dans lesquels les amis se tiennent tentèrent de les détourner, surtout quant à leurs soins diligents et vigilants du bon ordre et de la conduite des affaires de l'Église du Christ. Étant en liberté, je rendis visite aux amis à Londres, et ayant été très faible, et n'étant pas encore bien rétabli, j'allai à Kingston. Après avoir visité les amis là-bas, je retournai à Londres, écrivis un mémoire au Parlement et leur envoyai plusieurs livres. Un grand livre, contre le serment, leur avait été remis un peu auparavant, la raison en était si persuasive qu'on pensa qu'ils auraient fait quelque chose en vue de notre soulagement s'ils avaient siégé plus longtemps. Je demeurai à Londres et dans ses environs jusqu'à l'Assemblée annuelle, à laquelle les amis vinrent de la plupart des parties de la nation et certains d'outre-mer. Nous eûmes une réunion glorieuse dans la puissance éternelle de Dieu. Cette réunion terminée, et la session du Parlement terminée, où rien ne fut fait pour ou contre les amis, j'étais quitte de mon service pour le Seigneur à Londres. Et après avoir pris congé des amis là-bas, et après avoir eu une réunion glorieuse avec certains d'entre eux chez John L. ce matin, je voyageais vers le nord avec ma femme et sa fille, s'usant en coche, car je n'étais pas capable de voyager à cheval, beaucoup d'amis nous accompagnant jusqu'à Reigate, et certains jusqu'à Dunstable, où nous logeâmes cette nuit-là. Nous visitâmes les amis et fûmes visités par Osa Newport Paniel, Northampton et Cossel. Parmi d'autres vint une femme qui amena sa fille afin que je voie combien elle allait bien. Elle me rappela que lorsque j'étais là auparavant, elle me l'avait amenée fort affligée du mal du roi, et m'avait alors demandé de prier pour elle, ce que je fis, et elle fut guérie, loué soit le Seigneur. De Cossel nous allâmes, en passant par chez John Syncock et William Gandy, à Warrington, Preston et Lancaster. Je n'étais pas retourné à Lancaster depuis que j'y avais été arrêté et emmené par le sous-shérif et le geôlier au château de Scarborough dans le Yorkshire. Je trouvais la ville pleine de monde, car c'était le temps de la foire, et les régiments de milices locaux faisaient une revue générale. Beaucoup d'amis étaient aussi en ville, venus de diverses parties du comté, parce que la réunion trimestrielle devait s'y tenir le lendemain. Je restai deux nuits et une journée à Lancaster et visitai les amis tant à leur réunion des hommes qu'à celle des femmes, qui étaient très fournies, grandes et paisibles, car la puissance du Seigneur était sur toutes choses, et nul ne nous inquiéta. Là nous rencontrâmes Thomas Leo et sa femme, Sarah Fell, James Lancaster et Lona Fell. Le lendemain de la réunion, le 25e du 4e mois, nous traversâmes les sables avec plusieurs autres amis pour aller à Swarthmore. Après avoir été quelque temps à Swarthmore, plusieurs amis de diverses parties de la nation vinrent me visiter, et certains d'Écosse. Deux, j'appris que quatre jeunes étudiants d'Aberdeen avaient été convaincus là cette année, lors d'une dispute tenue par Robert Barclay et George Keith, avec quelques savants de cette université. Parmi d'autres, le colonel Kirby me rendit visite. Il avait été l'un de mes grands persécuteurs, mais il dit à présent qu'il venait me souhaiter la bienvenue dans le pays et se comporta, en apparence, avec beaucoup d'affection. Pourtant, avant que je quitte Swarthmore, il manda les constables d'Ulverston et leur ordonna de me dire que nous ne devions plus tenir de réunion à Swarthmore, car si nous le faisions, ils avaient reçu de lui l'ordre de les disperser et qu'ils viendraient le prochain premier jour pour voir si nous obéissions. Ce jour-là, nous eûmes une réunion très précieuse, la présence du Seigneur fut merveilleuse parmi nous et les constables ne vinrent pas nous troubler. Depuis, les réunions ont été paisibles et se sont accrues. La maladie que j'avais contractée durant mon emprisonnement à Worcester m'avait tant affaiblie que je mis longtemps avant de recouvrer ma force naturelle. Pour cette raison, et comme j'avais beaucoup de choses qui pesaient sur moi à écrire pour le service public et privé, je sortis peu durant le temps où je demeurais maintenant dans le Nord. Mais lorsque les amis n'étaient pas avec moi, je passais une grande partie de mon temps à écrire des livres et des papiers au service de la vérité. Pendant que j'étais à Swarthmore, j'en donnais plusieurs à imprimer, l'un, concernant le serment, un autre montrant que nul n'est successeur des prophètes et des apôtres, sinon ceux qui leur succèdent dans la même puissance et le même Saint-Esprit où ils étaient. Un autre montrant que la possession est au-dessus de la profession, et comment les professants persécutent maintenant le Christ en esprit, comme les Juifs professants le persécutèrent extérieurement au jour de sa chair. Un autre petit livre, au magistrat de Dantzig, un autre intitulé « Cain contre Abel », ou une réponse aux lois des hommes de la Nouvelle-Angleterre, un autre aux amis de Nevis concernant la vigilance d'un autre, une épître générale à tous les amis en Amérique, un autre, concernant le dû de César et le dû de Dieu, un autre, concernant l'organisation des familles. Un autre, intitulé « L'homme spirituel juge toutes choses », un autre, concernant le pouvoir supérieur. Outre ceci, j'écrivis plusieurs lettres aux amis tant en Angleterre qu'au-delà des mers, et des réponses à divers papiers concernant l'égarement de certains qui s'étaient opposés à l'ordre de l'Évangile. Cela avait suscité beaucoup de querelles et de contentions dans le Westmoreland. C'est pourquoi je fus poussé à écrire quelques lignes, en particulier aux amis de là-bas. Ceci est pour les amis du Westmoreland. Vivez tous dans la puissance de Dieu, dans sa lumière et son esprit, qui vous a d'abord convaincu, afin qu'en elle vous demeuriez dans l'ancienne unité, dans l'humilité, dans la crainte du Seigneur, et dans sa sagesse douce et pacifique, qui se laisse aisément fléchir. Afin que, dans la même puissance, lumière et esprit de Dieu, vous soyez utiles dans vos réunions d'hommes et de femmes, dans la possession de l'ordre de l'Évangile. Cet Évangile, la puissance de Dieu, a mis en lumière la vie et l'immortalité, afin qu'en cela vous puissiez dominer celui qui vous a obscurci. Dans cette puissance, aucun apostat ne peut entrer, car la puissance de Dieu existait avant les apostasies, avant la chute de l'homme et de la femme, avant même le diable, et elle sera quand il aura disparu. Louez donc Dieu dans la communion éternelle de l'Évangile éternel de Jésus-Christ, qui n'est pas de l'homme ni par l'homme. Et que tous les amis du Westmoreland demeurent dans la puissance de Dieu, qui vous préservera et vous couvrira, et doit le faire si vous êtes préservés. Que votre foi demeure dans la puissance de Dieu, et non dans la sagesse des paroles des hommes, afin que vous ne tombiez pas. Dans la puissance de Dieu, vous avez la paix, la vie et l'unité. Et c'est pour avoir manqué de demeurer dans la puissance de Dieu, dans sa justice et le Saint-Esprit, que toute cette discorde est venue parmi vous. George Fox, j'écrivis aussi l'épître générale suivant aux amis à l'Assemblée annuelle de Londres, « Mes chers amis et frères, que le Seigneur a préservés jusqu'à ce jour par sa puissance éternelle, au-dessus et à travers bien des troubles, tempêtes, orages et prisons, que la foi de chacun demeure dans la puissance de Dieu, qui est au-dessus du diable et qui existait avant lui. » Votre foi demeurant dans la puissance invisible de Dieu, elle demeure dans ce qui ne change pas, et la foi dont le Christ Jésus, la puissance de Dieu, est l'auteur, doit demeurer dans la puissance de Dieu. Ainsi donc votre foi demeure dans ce qui est au-dessus de tout, en quoi tous les chrétiens sont affermis. C'est à cela que l'apôtre amena l'Église, les vrais chrétiens, et ainsi la foi de tous les vrais chrétiens maintenant, dont le Christ est l'auteur, doit demeurer dans la puissance de Dieu, en laquelle subsiste le royaume éternel. À mesure que la foi de chacun demeure dans cette puissance, elle maintient tous dans la puissance de la piété. Car comme c'était au jour des apôtres, lorsque certains criaient qu'ils avaient été convaincus par Paul ou par Apollo, et ainsi de suite, il les jugea charnels, et les exhorta et admonesta afin que leur foi ne demeure pas en des hommes, ni dans les paroles de la sagesse humaine, mais dans la puissance de Dieu. Il dit qu'il ne voudrait pas connaître leur discours, mais la puissance parmi eux, car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. 1 Cor 4, 19-20. Il en doit être ainsi maintenant. La foi de chacun doit demeurer dans la puissance de Dieu, et non en des hommes, ni dans leurs discours sur de bonnes paroles. Car nous avons vu par expérience ce qui arrive lorsque les gens commencent à suivre des hommes, et que leur foi demeure en eux. Ceux qui voudraient que la foi des gens demeure en eux aiment la popularité, et ne conduisent pas la foi des gens à demeurer dans la puissance de Dieu. De tels ne peuvent exalter le Christ, et lorsqu'ils tombent, ils entraînent une grande compagnie après eux. C'est pourquoi l'apôtre ne voulait connaître personne selon la chair, mais ce qui était dans la puissance et l'esprit, et il abattit la foi de chacun qui demeurait dans les paroles de la sagesse humaine, afin qu'elle demeure dans la puissance de Dieu. Il en doit être ainsi maintenant. Ceux dont la foi ne demeure pas dans la puissance ne peuvent exalter son royaume qui demeure dans la puissance. Par conséquent, la foi de chacun doit demeurer dans la puissance de Dieu. L'apôtre renonça à la popularité, lorsqu'il jugea les Corinthiens, pour regarder à Paul et à Apollo charnels, de tels sont encore charnels. C'est pourquoi tous devraient se connaître les uns les autres dans l'esprit, la vie et la puissance, et regarder au Christ, cela maintient tous dans l'humilité. Ceux dont la foi demeure en des hommes feront des sectes, comme au jour de James Naylor, John Perrow et d'autres. Le Christ n'est pas l'auteur de la foi de tels, ou s'il l'a été, ils s'en sont écartés, et en ont fait naufrage. Tous ceux qui sont dans la vraie foi qui demeurent dans la puissance de Dieu les jugeront charnels, et abattront cette partie charnelle en eux qui exaltent Paul ou Apollo, afin que leur foi demeure dans la puissance de Dieu, et qu'ils puissent exalter le Christ qui en est l'auteur. Car les yeux de chacun doivent être tournés vers Jésus, et tout homme et toute femme juste peuvent vivre par leur foi, dont le Christ est l'auteur et l'accomplisseur. Par cette foi, tout homme peut voir Dieu qui est invisible, cette foi donne la victoire, et par elle il a accès à Dieu. Ainsi la foi et l'espérance de chacun demeurant dans la puissance de Dieu, tous ont l'unité, la victoire et l'accès au trône de grâce de Dieu, dans cette foi ils plaisent à Dieu. Par cette foi ils sont sauvés, obtiennent un bon témoignage, et abattent toutes les montagnes entre eux et Dieu. Cette puissance a préservé les amis au-dessus de leurs persécuteurs, au-dessus de la colère des hommes, au-dessus de la saisie de leurs biens et de l'emprisonnement. Comme voyant Dieu qui a créé toutes choses, donne l'accroissement de toutes choses, et soutient toutes choses par sa parole et sa puissance. Que la foi de chacun soit donc en sa puissance. Là aucune scission ni secte ne peut entrer, car elle est au-dessus d'elle, avant qu'elle ne fusse, et elle sera quand elles auront disparu. Mais l'unité parfaite est dans la vérité, dans l'esprit, qui circoncit le corps de mort, ôte les péchés de la chair, et l'y plonge avec l'esprit. Dans l'Esprit de Dieu, il y a une communion parfaite, et le Christ est le ministre de la circoncision et du baptême. Ceci est sur moi, de la part du Seigneur, de vous écrire, afin que chacun de vous, dont Jésus est l'auteur de la foi, puisse demeurer dans la puissance de Dieu. De la part du Seigneur je vous avertis, vous êtes tous partout, de la même chose, car si une étoile devait tomber, elle qui a été une lumière, la terre où la mer la reçoit, c'est-à-dire l'esprit terrestre, où le peuple bouillonnant est furieux. Bien que ni la semence, ni la lumière, ni la puissance, ni la vérité ne soient jamais tombées, ni la foi elle-même, don de Dieu, mais les hommes qui s'en éloignent deviennent insipades. Adam, tant qu'il demeura dans la vérité et obéit au commandement de Dieu, fut heureux, mais lorsqu'il désobéit au Seigneur, il tomba sous la puissance de Satan et devint malheureux. Bien qu'il pût ensuite parler de ses expériences dans le paradis, il avait perdu son image, et la puissance et la domination dans lesquelles Dieu l'avait créé. Les Juifs, après avoir reçu la loi, tant qu'ils gardèrent la loi de Dieu, qui était juste, sainte, bonne et parfaite, elle les maintint bons, justes, sains et savoureux, mais quand ils tournèrent le dos au Seigneur et abandonnèrent sa loi, ils tombèrent sous la puissance des ténèbres, sous les puissances de la terre, et furent foulés aux pieds comme une cipade. Les chrétiens furent appelés, une ville située sur une colline, la lumière du monde et le sel de la terre, mais quand ils abandonnèrent la puissance de Dieu, et que leur foi demeura dans des paroles et des hommes, et non dans la puissance, alors leurs murailles tombèrent, bien que la puissance en elle-même demeurât, et ils perdirent leur colline, leur saveur salée et leur éclat. Et puisque la chrétienté confesse maintenant qu'elle n'est pas dans la même puissance et le même esprit que les apôtres, elle n'est donc pas dans le même sel, ni sur la même colline. Ainsi ils en vinrent à être foulés aux pieds, et la bête, la prostituée et le faux prophète dominent, les insipades. Leur foi morte est dans les hommes et dans les paroles, c'est pourquoi ils sont pleins de sectes et l'un contre l'autre. Et maintenant l'évangile éternel, la puissance de Dieu, est de nouveau prêché, lui qui existait avant que le diable fût, celui qui a obscurci l'homme. Et par cette puissance de Dieu, la vie et l'immortalité ont de nouveau été mises en lumière. C'est pourquoi la foi de chacun doit demeurer dans cette puissance qui a mis en lumière la vie et l'immortalité en eux, et ainsi être héritier de la puissance de Dieu, l'évangile. En cela, tous ont droit à la puissance de Dieu, qui est l'autorité des réunions d'hommes et de femmes, et de toutes les autres réunions établies par la puissance de Dieu. Comme l'Évangile est de nouveau prêché, si votre foi ne demeure pas dans la puissance, mais dans des hommes et dans la sagesse des paroles, vous deviendrez charnels, et tels sont pour le jugement eux qui exaltent Paul ou Apollo, et non le Christ, auteur de votre foi. Ceux qui aiment la popularité voudraient que la foi des gens demeure en eux, de tels ne prêchent pas le Christ mais eux-mêmes. Mais ceux qui prêchent le Christ et son évangile voudraient que tout homme et toute femme en ait la possession, et que la foi de chaque homme et de chaque femme demeure en Christ qui en est l'auteur. Et dans la puissance de Dieu, dans laquelle, à mesure que leur foi y demeure, rien ne peut s'interposer entre eux et Dieu. Car si quelqu'un devait tomber parmi nous, comme trop long fait, cela conduirait ses suiveurs soit dans les eaux les peuples furieux du monde, soit dans la terre l'esprit terrestre. Si quelqu'un s'écartait de l'esprit de prophétie, qui leur avait ouvert les choses, et de la puissance, il pourrait parler de ces expériences que la puissance lui avait ouvertes autrefois. Ainsi Adam et Ève pouvaient parler de ce qu'ils avaient vu les goûter au paradis, ainsi Caïn et Balaam pouvaient parler de ce qu'ils avaient vu, ainsi aussi les Juifs, Corée et Dassen, qui louèrent Dieu sur les rives, virent la victoire sur Pharaon, mangèrent la manne, burent du rocher, vinrent au mont Sinaï et virent la gloire du Seigneur. Ainsi les faux apôtres pouvaient parler de leurs expériences, et tous ces faux chrétiens qui se détournèrent des apôtres et du Christ. Ainsi peuvent faire maintenant ceux qui s'égarent loin de l'Esprit, qui sont sortis de l'Égypte et de Sodome spirituelle, et ont connu la fureur des Sodomites, comme l'ont connu celle des Sodomites extérieurs, et la poursuite des Égyptiens spirituels, comme le Juif extérieur connut celle de l'Égyptien extérieur. Pourtant, s'ils ne marchent pas dans l'Esprit de Dieu, dans la lumière et dans la grâce, qui maintient leur cœur affermi, leur parole assaisonnée et leur foi dans la puissance de Dieu, en laquelle subsiste le royaume, ils peuvent aller de l'avant comme les faux chrétiens, comme les Juifs, comme Adam et Ève, Caïn, Corée et Balaam, et être des étoiles errantes, des arbres sans fruits, des puits sans eau et des nuées sans pluie, et ainsi devenir une cépade d'êtres foulés, comme Adam qui perdit le paradis et les Juifs qui perdirent la terre sainte, ne marchant. Que la foi de chacun demeure donc dans la puissance du Seigneur, qui est au-dessus de tout, par laquelle ils peuvent être édifiés sur le rocher, le fondement de Dieu, la semence Jésus-Christ. Ainsi tous dans le Christ peuvent être toujours frais et verdoyants, car il est l'arbre vert qui ne se flétrit jamais. Tous ceux qui sont greffés en lui, demeurent en lui et portent des fruits frais, célestes, à la louange de Dieu, sont frais et verdoyants. Et bien qu'Adam et Ève soient tombés du paradis, que les Juifs soient tombés de la loi de Dieu, que beaucoup de chrétiens soient tombés de leur prophétie, se soient égarés loin de la foi, de l'esprit et de la grâce, et que les étoiles soient tombées, comme il est dit dans l'Apocalypse, pourtant l'Esprit, la grâce, la foi et la puissance de Dieu demeurent. J'ai vu bien des états semblables au cours de ces 28 dernières années, mais il est un état qui ne tombera jamais ni ne sera trompé, celui des élus avant la fondation du monde, qui sont parvenus au terme des prophéties et sont en lui, là où elles s'achèvent, renouvelées à l'image de Dieu par le Christ, celle dans laquelle l'homme était avant sa chute, dans cette puissance où il avait domination sur tout ce que Dieu avait fait. Et non seulement cela, mais parvenir à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, lui qui n'est jamais tombé. En lui se trouve le repos dans la vie éternelle, où leurs pieds tiennent fermes et assurés dans l'Évangile sa puissance. Là leur pain est certain, et celui qui mange ce pain vit pour toujours. Et vous tous, amis et frères, qui déclarez la vérité éternelle de Dieu et la parole de vie, vivez en elle, soyez assaisonnés de grâce et salés du sel céleste, afin que vos vies et votre conduite prêchent partout où vous irez, qu'il n'y ait ni crudité, ni extinction de l'esprit, ni mépris de la prophétie, ni chez les hommes ni chez les femmes. Car tous se rencontreront dans la foi dont Jésus est l'auteur, et dans la lumière qui vient de lui, et seront ainsi greffés dans la vie, afin que vous ayez connaissance les uns des autres en Christ. Et que nul ne soit paresseux, ni assis dans les choses terrestres en s'y attachant, comme Démas autrefois, de sorte que vous ne vous revêtiez pas d'un autre vêtement que celui que vous aviez au commencement, mais que tous demeurent chastes, car les chastes suivent l'agneau. Et vous, amis qui êtes ministres, possédez comme si vous ne possédiez pas, mariez-vous comme si vous ne l'étiez pas, soyez détachés du monde dans la puissance du Seigneur, car l'huile de Dieu sera au-dessus de toutes les choses visibles, ce qui fait brûler ses lampes et donne une lumière au loin. Que nul ne lutte ni ne convoite d'être riche en ce monde, dans ces choses changeantes qui passeront, mais que votre foi demeure dans le Seigneur Dieu, qui ne change pas, a tout créé et donne l'accroissement de tout. Maintenant, amis, au sujet des réunions des hommes et des femmes fidèles, qui ont été établies selon le conseil de Dieu. Quiconque s'y oppose s'oppose à la puissance de Dieu, qui en est l'autorité. Ceux qui s'opposent à sa puissance, que tous doivent posséder, ne sont pas ministres de l'Évangile ni du Christ. Car les véritables ministres du Christ, qui prêchent son évangile, qui doit être prêché à toutes les nations, alors que la tromperie a parcouru toutes les nations, que toutes les nations ont bu la coupe de la prostituée, et qu'elle les tient dans sa cage, sa puissance impure venant de la bête et du dragon, hors de la puissance de Dieu, hors de la vérité et de l'esprit de Dieu où étaient les apôtres, la puissance de Dieu doit de nouveau venir sur tout cela, et tous les vrais ministres qui prêchent l'évangile doivent ramener les gens à la possession de cette. Je dis, quiconque prêche l'évangile du Christ et le Christ au peuple et aux nations, ces peuples et ces nations, recevant l'Évangile, reçoivent la puissance de Dieu, qui met en lumière en eux la vie et l'immortalité. Et ils voient au-dessus du diable qui les a obscurcis, et au-dessus de la bête, de la prostituée et de sa cage. Ainsi, par la puissance de Dieu, la vie et l'immortalité sont mises en lumière en eux. Alors ces hommes et ces femmes, héritiers de cette puissance de l'Évangile, sont héritiers d'autorité et de puissance sur le diable, la bête, la prostituée et le dragon. C'est leur possession et leur part, et ils doivent travailler dans leur possession et leur part pour accomplir l'œuvre et le service de Dieu Tout-Puissant dans la possession de la puissance de Dieu, l'Évangile, qui est un ordre joyeux, glorieux, éternel. Voici l'autorité de nos réunions d'hommes et de femmes, et d'autres réunions au nom de Jésus, l'Évangile du Christ, la puissance de Dieu, qui n'est pas de l'homme ni par l'homme. C'est en cela que tous doivent se rassembler et adorer Dieu. C'est par cela que tous doivent agir, et en cela que tous ont communion, une communion joyeuse, une assemblée joyeuse et réconfortante. Tous les hommes et toutes les femmes fidèles dans chaque pays, ville et nation, dont la foi demeure dans la puissance de Dieu, l'Évangile du Christ, qui ont reçu l'Évangile et en sont en possession, ont droit à la puissance dans ces réunions, car ils sont héritiers de la puissance, qui est l'autorité des réunions d'hommes et de femmes. Ainsi voici le choix de Dieu et non celui de l'homme, par sa puissance de ses héritiers, et ils ont toute liberté d'aller aux réunions, les hommes à celles des hommes et les femmes à celles des femmes, car ils sont héritiers de la puissance reçue dans le Saint-Esprit. Et par la lumière, la vie et l'immortalité qui sont mises en lumière en eux, ils voient au-dessus de l'inimitié de l'homme contre Dieu, et avant qu'elle ne fût. Le diable, l'auteur de l'inimitié, ne peut entrer dans cette autorité, cette puissance, cet ordre ni cette communion de l'Évangile, ni dans la vie, ni dans la lumière, ni dans l'unité de la foi, qui donne la victoire sur celui qui a séparé l'homme de Dieu. Dans l'unité de cette foi, le serpent ne peut venir, ni dans l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, le diable ne peut venir, ni aucune inimitié. Et ceux qui sont en cela sont dans l'unité au-dessus de lui. Que la foi de chacun demeure donc dans la puissance de Dieu, le glorieux Évangile, que tous marchent d'une manière digne de l'Évangile et de son ordre. Comme chacun a reçu le Christ Jésus, le Seigneur, qu'ainsi ils marchent en lui, et qu'il soit leur Seigneur et celui qui met l'ordre. Car la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ a pour but que tous puissent devenir héritiers de l'Évangile, entrer en sa possession, devenir héritiers du Christ et de son gouvernement, dont l'accroissement n'aura pas de fin. Lui qui est au-dessus de tout dans sa justice, et au-dessus de tout dans sa lumière, sa vie, sa puissance et sa domination. Reconnaissez-vous donc les uns les autres dans sa puissance, son Évangile, reconnaissez-vous les uns les autres en Jésus-Christ, qui est capable de relever l'homme de l'état de chute pour le ramener à l'image de Dieu, et dans cette puissance et cette domination que l'homme avait avant de tomber, et en celui qui n'est jamais tombé, d'où ils ne sortiront plus. Voici le rocher, et le fondement de Dieu qui demeure ferme. Et amis, soyez sensibles aux tendres principes de Dieu en tout. Fuyez les occasions de vaines disputes et controverses, tant entre vous qu'avec les autres, car bien souvent c'est comme un vent violent qui blesse et meurtrit les tendres bourgeons et les jeunes plants. Car le monde, bien qu'il ait les paroles, est hors de la vie, et la controverse de l'apôtre avec eux visait à les amener à la vie. Et ces disputeurs parmi les chrétiens au sujet des généalogies, de la circoncision, de la loi, des viandes, des boissons, des jours, en vinrent à être la pire sorte de disputeurs que les apôtres jugèrent, car de tels hommes détournaient les gens de la foi. C'est pourquoi les apôtres exhortaient les églises à ce que la foi de chacun demeure dans la puissance de Dieu, et à regarder à Jésus qui en est l'auteur. Là chaque greffe demeure en Christ la vigne, paisible, là où aucun orage violent ne peut leur nuire, là est la sécurité. Là tous sont d'un même esprit, une même foi, une même âme, un même esprit baptisé dans un seul corps par un seul esprit, et tous abreuvés d'un seul esprit, une seule église et une seule tête céleste et spirituelle. Et une seule foi en cette tête, le Christ, qui en est l'auteur et en a la gloire, un seul Seigneur pour tout ordonner, lui qui baptise dans ce seul corps. Ainsi, le Christ reçoit la gloire de sa foi de la part de tout homme et de toute femme, et le Père, par lui, reçoit sa gloire, lui le Créateur de tout, dans sa puissance, l'Évangile qui a mis en lumière en eux la vie et l'immortalité. Et leur foi demeurant en cela, ils connaissent le Dieu immortel, le servent et l'adorent dans son esprit et dans sa vérité, par quoi ils deviennent hommes et femmes libres de Dieu, délivrés de celui qui est hors de la vérité. Maintenant, amis, vous qui avez été d'anciens ouvriers, et qui avez connu les voies du Seigneur ces 20 années, plus ou moins, comme je vous l'ai souvent dit, rassemblez autant que vous le pouvez de ce que le Seigneur vous a fait traverser par sa puissance, les événements et les souffrances, et comment le Seigneur vous a soutenu dès le commencement, afin qu'il soit exalté par sa puissance maintenant et dans les siècles à venir. Lui qui a été l'unique soutien, défense et appui de son peuple tout du long, au-dessus de tout pour lui-même, à lui soit toute gloire et louange au siècle des siècles. Amen, il le mérite en son Église à travers tous les âges de la part de ses membres vivants, qui rendent la louange au Dieu vivant, qui vit et règne sur tout, béni éternellement, lui qui est la vie, la force, la santé et la longueur des jours de son peuple. Qu'il n'y ait donc aucune vantardise sinon dans le Seigneur, dans sa puissance et son royaume, ce qui maintient tous dans l'humilité. Et amis dans la puissance et la vérité du Seigneur, quel bien vous pouvez faire pour les amis en prison, ou pour ceux qui souffrent, en les informant ou en les aidant, que chacun de vous se plie à la puissance et à l'Esprit du Seigneur pour faire sa volonté et son œuvre, et ainsi tous auront une compassion mutuelle pour les conditions des uns et des autres, enchaînés ou dans quelque épreuve ou tribulation que ce soit. Vous aurez une compassion mutuelle, ayant une seule tête, un seul Seigneur, et étant un seul corps en lui. Car la verge céleste de battage de Dieu a fait sortir sa semence, sa charrue céleste a retourné la terre en friche, sa semence céleste est semée par l'homme céleste, qui produit des fruits pour le semeur céleste, chez les uns aux 50, 60 et aux centuples durant leur vie, et de tels, dans le monde sans fin, auront la vie éternelle. Oh, que tous demeurent donc au-dedans, que vos lumières brillent et que vos lampes brûlent, afin que vous soyez des puits pleins de l'eau vive, et des arbres pleins du fruit vivant de la plantation de Dieu, dont le fruit est pour la sainteté et dont la fin est la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu de puissance vous conserve tous dans sa puissance. Que votre foi demeure en elle, afin que vous ayez l'unité dans la foi et dans la puissance, et que, par cette foi et cette croyance, vous soyez tous greffés en Christ, la racine et le rocher sur des siècles, là où le soleil éternel de justice brille, dans le jour céleste et éternel, sur ses plans et ses greffes. Ce soleil ne se couche jamais, et les sources célestes de vie et les averses sont connues pour arroser et nourrir les greffes, les plants et les bourgeons, afin qu'ils soient toujours gardés frais et verdoyants et ne se flétrissent jamais. Portant un fruit frais, vert et vivant qui est offert au Dieu vivant, lequel est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruits. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde et vous conserve tous dans sa puissance, sa lumière et sa vie, au-dessus de la mort et des ténèbres, afin que vous répandiez sa vérité au loin et que vous soyez vaillants pour elle sur la terre, répondant à ce qui est de Dieu en tout. Afin que, par elle, l'esprit des gens soit tourné vers Dieu, de sorte qu'avec elle ils viennent à connaître Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, dans laquelle la connaissance du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. Sa vie doit triompher de la mort, sa lumière doit triompher des ténèbres, et la puissance de Dieu doit triompher de la puissance de Satan. Ainsi vous tous qui êtes dans la lumière, la vie et la puissance, gardez la communion céleste dans la puissance céleste, l'unité céleste dans la foi divine céleste, et l'unité de l'Esprit, qui est le lien de la paix du Prince céleste des princes, lui qui brise la tête de l'ennemi de l'adversaire et réconcilie l'homme avec Dieu et toutes choses au ciel et sur la terre. Quelle réconciliation bénie, que la foi de chacun demeure dans la puissance de Dieu, dont Jésus-Christ est l'auteur, afin que tous connaissent leur couronne de vie. Car toutes les choses extérieures, sans la substance, la vie, la puissance, sont comme l'enveloppe sans le grain, et ne nourrissent ni l'âme immortelle ni le nouveau-né. Mais ce qui nourrit, c'est le lait de la parole, par lequel tous grandissent dans la vie, la force et la sagesse céleste. L'Évangile n'est pas de l'homme ni par l'homme, mais il est la puissance de Dieu et répond à la vérité en tout. Tous ceux qui le possèdent doivent veiller à ce que tous marchent selon lui. Cet ordre éternel est déjà ordonné de Dieu, et tous ceux qui le possèdent possèdent leur joie, leur consolation et leur salut. Mon amour à vous tous, avec celui qui règne et qui est au-dessus de tout, d'éternité en éternité. Demeurez dans l'amour de Dieu, qui surpasse la connaissance et édifie les membres vivants du corps du Christ, cet amour de Dieu en lequel vous en venez à être édifiés, et dans la sainte foi. Cet amour de Dieu vous amène à tout supporter, tout endurer et tout espérer. De cet amour que vous avez en Jésus-Christ, rien ne pourra vous séparer, ni les puissances, ni les principautés, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les prisons, ni les saisies de biens, ni la mort, ni la vie. L'amour de Dieu se maintient au-dessus de tout ce qui voudrait séparer de Dieu, et fait de vous plus que des vainqueurs en Jésus-Christ. Demeurez donc en cela, afin que, avec le même amour, vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que tout l'ouvrage de Dieu, afin que vous glorifiez Dieu par vos corps, vos âmes et vos esprits, qui appartiennent au Seigneur. Amen. George Fox, que tous les amis s'asseyent bien bas dans la vie, dans la puissance du Seigneur. Gardez-y votre place, jusqu'à ce que le Seigneur et Maître du festin céleste vous dise « Resitue-toi plus haut, de peur que vous ne preniez la première place et que vous ne soyez rabaissé avec honte. » Que celui qui a des oreilles entende. George Fox Postscriptum ami, prenez garde de dire les choses de Dieu avec les mots que la sagesse des hommes a enseignés, car ces mots élèveront les insensés qui s'égarent loin de l'Esprit de Dieu. Ces mots et cette sagesse des hommes sont pour la condamnation, avec ce qui est exalté par eux, et ceux qui disent les choses de Dieu en eux. De sorte que cette vieille maison, avec ses biens, doit être jetée sous le pied de la nouvelle naissance. Et amis, je vous demande de garder tous l'ordre saint, qui est dans l'Évangile, l'ordre glorieux dans la puissance de Dieu, dont le diable est exclu, qui était avant tous ses ordres, et avant aucun ordre du monde. Cet ordre joyeux garde tous les cœurs purs envers Dieu dans une paix, une unité et un ordre éternel. Sentez-le et gardez-le, hommes et femmes, et venez à être héritiers de l'Évangile, qui met en lumière la vie et l'immortalité, et à voir au-dessus de cette puissance des ténèbres, par celui qui était avant que la puissance de la mort fût. En cela se trouve l'ordre saint dans l'amour et la paix. Demeurez donc en ce qui vous garde toujours pur, quoi que fassent les hommes et les femmes en cela, ils le font dans ce qui subsistera quand le monde aura disparu. Il y a eu quelques malaises au sujet des réunions d'hommes et de femmes. Dans l'Évangile, hommes et femmes sont héritiers de la puissance qui était avant le diable, étant héritiers de celle-ci, qu'ils entrent alors en sa possession et y accomplissent l'œuvre du Seigneur. Que chacun veille à l'honneur de Dieu, et que toute chose soit gardée dans la justice et la sainteté, ce qui convient à la maison de Dieu. Lorsque ces réunions furent établies pour des hommes et des femmes, héritiers de l'Évangile et ayant droit à l'ordre de l'Évangile, cela me consola parce que leur justice et leur sainteté honoraient Dieu. Prenez donc vos possessions, pratiquez-y, ne soyez pas seulement des parleurs, mais vivez et marchez dans l'Évangile, la puissance de Dieu, qui est l'autorité de vos réunions. George Fox Swarthmore, le 28 du 2e mois, 1676, lu à la réunion annuelle à Londres, le 17 du 3e mois, 1676. Extrait de Valiant for the Truth, il aurait été bon pour l'Église qu'il aimait tant, si ses conseils pressants et pleins d'amour avaient été suivis. Dans les 200 ans qui se sont écoulés depuis que ceci a été écrit, il y a eu des disputes sur des points analogues aux viandes et aux boissons, et aux jours et aux temps, qui troublaient les premiers chrétiens, des disputes aussi menées sans l'esprit d'amour qu'il recommande, qui ont introduit la confusion dans ses frontières et entravé son utilité. Retour suivant.